Bonsoir mes frères et sœurs, il est sûr que Dieu regarde au cœur. Et il sait ce qui se passe dans le cœur de chacun ce soir, il sait ce que nous avons besoin d'entendre. Je voulais lire deux ou trois textes avec vous, le premier dans Ésaïe 53, s'il vous plaît. Tout ce chapitre qui nous rappelle l'œuvre de Christ au calvaire. J'aimerais juste lire un verset avec vous, un verset que nous ne lisons pas souvent et pourtant, des versets qui nous étonnent, qui nous choquent, mais qui en disent long sur ce que Dieu veut faire. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Ça vaut la peine de le méditer, on ne le fera pas ce soir, mais ça vaut la peine d'introduire la prédication avec ce verset. Il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Amen. Vous l'avez déjà lu ? Ouais. Il a plu à l'Éternel parce que Dieu savait que la souffrance de Jésus allait amener la délivrance et la victoire et la vie. J'aimerais lire un autre texte avec vous dans les Philippiens où il nous est demandé certaines choses pour ressembler de plus en plus au Seigneur. Car la volonté de Dieu, c'est que nous ressemblions de plus en plus à notre Sauveur Jésus-Christ. Ça vous intéresse de lui ressembler ? Vraiment ? L'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens de Philippe, au chapitre 2, au verset 5. On va lire jusqu'au verset 11. Là aussi, il nous est relaté ce que le Seigneur a fait. N'oubliez pas, pour ceux qui découvrent l'Évangile, que Jésus est Dieu, dépouillé de sa gloire. On célèbre, en veux-tu, en voilà, l'incarnation de Jésus à Noël, mais les gens ne réalisent pas que Jésus-Christ est Dieu venu en chair. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire les pensées, ce n'est pas des émotions bien sûr. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le résultat final, c'est que tout genou, vous pouvez penser à n'importe qui sur la terre, qui a existé, que ce soit des rois, des reines, ou que ce soit de pauvres gens, tout genou fléchira. Reste à savoir de quel côté nous fléchirons le genou. Parce qu'il y a des gens qui fléchiront le genou dans des robes de fin lin, dans la gloire, dans la félicité, dans la paix, etc., dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre. Et il y a des gens qui devront fléchir le genou devant Jésus. Ils n'auront pas Jésus pour avocat, ils auront Jésus pour juge. Tout genou fléchira. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, ça ne change rien. Vous le croyez, vous ne le croyez pas, tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il a souffert, il n'avait même pas un oreiller. C'est écrit dans les évangiles qu'il n'avait même pas un coussin pour reposer sa tête. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu demander aux apôtres qu'ils fassent suivre une petite caisse avec un coussin dedans? Est-ce qu'il n'a pas demandé aux apôtres de tenir toujours à sa disposition une petite barque pour... Est-ce qu'il a fait ça? Oui, il a demandé, vous savez, les apôtres, ils ont commencé, quand on regarde, les apôtres, ils ont commencé avec certaines choses absolument simples. N'oubliez pas, les hommes qui ont changé le monde. Jésus leur a dit, tenez à ma disposition toujours une petite barque. Et ils l'ont fait. Jésus aurait pu dire, dans la barque, il y a un petit coffre avec un coussin. Il n'a même pas pensé à lui. Jamais il n'a pensé à lui. Pourquoi ? Il s'est dépouillé. Il aurait pu ne pas se dépouiller autant. Il l'a fait. Il l'a fait et nous devons non pas nous dépouiller pour nous dépouiller, ça ne veut rien dire. Non pas nous appauvrir pour nous appauvrir. Dieu ne va pas demander forcément à quelqu'un de s'appauvrir. Dieu laisse tranquille certains riches, il leur demande de vendre leurs biens parce que c'est un obstacle. Jonathan nous parlait tout à l'heure de la télé dont il s'est débarrassé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il sentait dans son cœur que ça devenait un obstacle. Dieu sait très bien ce qui fait obstacle à cette bénédiction. Alors je voudrais vous parler ce soir un petit peu de certaines choses, bien sûr, pour que nous discernions la volonté de Dieu. Parce que c'est terrible de voir des chrétiens qui ont 20 ans de marche avec Dieu et qui ont fait des expériences belles et qui ne sont pas capables de discerner la volonté de Dieu. Et notre devoir, c'est d'avancer dans le discernement de la volonté de Dieu. Et ça passe toujours, bien sûr, par ce brisement. Vous vous rappelez Saul de Tarse, comment il est avant sa conversion ? C'est un grand pompe, c'est un homme riche, c'est un homme célèbre, c'est le pharisien des pharisiens, c'est un homme qui a des lettres de tous les gouverneurs pour persécuter les chrétiens, c'est quelqu'un de riche. Et vous savez ce qui s'est passé ? On va lire juste une de ses premières expériences. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais je voudrais que vous la lisiez avec moi. Imaginez-vous cet homme, quelques jours sur son avant, sur son cheval, avec tous ses serviteurs et ces gens qu'il commandait sur le chemin de Damas. Regardez-le quelques jours après. Actes chapitre 9, verset 18. Après donc, le jour où Dieu lui a ouvert les yeux, parce que croyez-moi, Dieu a ouvert les yeux de cet homme. Croyez-moi. Alors, il faut lire certaines choses pour que nous comprenions vraiment comment le Saint-Esprit agit pour nous amener à discerner la volonté de Dieu. Acte 9, verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Oui, ça n'a pas pris 3 mois. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Amen. Vous l'aviez lu cette histoire. Le grand Saul de Tarse, quelques jours après. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Le grand homme, le grand pharisien. Moi hier je priais et je le voyais attaché à sa corde là, en train de descendre dans la corbeille. En pleine nuit, sachant qu'on voulait le tuer. C'est ça le brisement. Saul a été brisé. Je vais vous poser une question. Est-ce que nous aimons Dieu ou est-ce que nous aimerions l'aimer ? Il va me dire, qu'est-ce que tu veux dire ? Vous avez compris la différence ? Et j'ai bien peur que beaucoup de gens aimeraient l'aimer, aimeraient vraiment le servir, aimeraient vraiment que Jésus soit le bon berger. Nous avons entendu à 2 reprises, 2 mardis de suite, 2 exhortations sur le fait que Jésus devenait notre berger, que les brebis, elles connaissent sa voix, que les brebis, lorsque elles savent pertinemment, elles vivent avec cette grâce et qu'elles peuvent dire « L'Éternel est mon berger », elles savent qu'elles ne manqueront de rien. Alors je ne parle pas peut-être matériellement. Est-ce que ça peut arriver à la fin de mois de manquer de 30 euros ? Est-ce que ça peut arriver matériellement de manquer de quelque chose ? Ben oui, je ne pense pas que ça soit une allusion matérielle. que le roi David fait allusion. Je pense que c'est au niveau spirituel. Lorsque le Seigneur est notre berger, nous ne manquons de rien. Avez-vous besoin de paix? Combien de chrétiens n'ont pas la paix? Pourquoi tant de chrétiens rétrogradent? Pourquoi tant de chrétiens cherchent la joie dans le monde? Alors que Jésus est catégorique, il le promet que celui qui demeure en lui, il va lui donner la joie, une joie parfaite. Vous le croyez ça, qu'elle existe cette joie parfaite? Et si, mais ce n'est pas un jugement, ce n'est pas du mépris. Mais si tant de gens ont rétrogradé, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu cette véritable joie que Jésus donne à ceux qui demeurent en lui. Et je vous exhorte, pour vos cultes personnels, j'espère que vous les faites, je vous exhorte à méditer les trois premiers chapitres des Éphésiens qui nous parlent de notre position en Christ, ce que nous avons en Christ. Toutes les grâces et les richesses qu'obtiennent, que devraient obtenir, que devraient recevoir tous ceux qui sont en Christ. Vous le croyez, ça, c'est tout ce qui est écrit dans les Éphésiens? Ou est-ce que c'est trop? Est-ce que l'apôtre Paul exagère? Est-ce que ce n'est pas possible? Vous avez vu tout ce qui est dit? Mais moi, franchement, quand je lis, hier soir, je lisais l'Épître aux Éphésiens. Dimanche, je relisais l'Épître aux Éphésiens. Et d'ailleurs, j'ai mis dans une Bible à moi, le titre, c'est « En lui, tellement il y a des grâces ». Vous le croyez, ce que Paul dit aux Philippiens quand il dit « En lui sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse ». Trésors. En lui sont cachés toute la grâce, toute la faveur. On va juste relire ce qu'on a lu dimanche, Éphésiens chapitre 1er. Mais je vous encourage vraiment à faire cette lecture et dire « Seigneur, mais montre-moi ce que je suis en toi. Qu'est-ce que je suis en toi ?» Regardez toutes les fois en lui, en Christ, en Jésus. On va lire le verset 3 quand même du chapitre 1er. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Mais vous le croyez ça? Que toutes les bénédictions, elles sont à la portée d'un chrétien? Est-ce que vous le croyez? Moi je le crois. En lui, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus. » Nous ne sommes pas des chrétiens, pentecôtistes ou baptistes. C'est une élection, il y a une véritable appartenance en Christ. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La Bible fait la différence entre les élus, c'est-à-dire les gens qui ont répondu à la vocation et qui affermissent cette vocation avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez le faire chez vous? Prendre les trois premiers chapitres. Éphésiens, il y a six chapitres. Trois chapitres sur la position, trois chapitres sur le comportement. Quand vous comprenez les trois premiers chapitres, vous avez de la facilité à mettre en pratique les trois autres. Mais vraiment, ça vaut la peine. Alors, regardez au verset 17 de ce chapitre, on voit qu'il y a une prière. Paul prie, il dit, mais pourtant il est en prison, il ne dit pas prier pour que je sorte de prison. Il dit, je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, etc., etc. S'il vous plaît, dans vos cultes personnels, je ne sais pas comment vous faites vos cultes personnels, mais prenez le temps, prenez un papier, notez tout ce que vous êtes devenu, tout ce que nous pouvons obtenir lorsque nous vivons en Christ. On dit des fois, si quelqu'un est en Christ, les gens ils confondent, on dit oui, si quelqu'un est chrétien, et c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont croyants, ils ne sont pas devenus des nouvelles créatures. J'exagère, oui ou non? Est-ce que j'exagère? Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un demeure en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a des gens, ils sont devenus pentecôtistes, ils sont devenus sympathisants des assemblées de Dieu, ils ont pris le baptême, ils sont là, ils regardent, ils observent, ils sont devenus croyants de nom, mais ils ne sont pas en Christ. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en Christ. Regardez, c'est une loi, ça vaut vraiment la peine de méditer les Éphésiens. Regardez au chapitre 4. Lorsqu'il est dit, à la fin, on va lire le verset 10. Quand, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils veulent la bénédiction. Les gens, ils veulent être bénis. Ça s'arrête là. Mais ils ne veulent pas ressembler au Seigneur. Éphésiens chapitre 4, verset 10. « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Mes frères et sœurs, s'il y a une chose que Dieu veut, c'est nous remplir de sa présence. Mes frères et sœurs, sincèrement, si nous croyions vraiment ce que nous lisons, il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Est-ce que nous aspirons à ces choses? Est-ce que vous croyez que Christ, depuis qu'il est remonté au ciel et qu'il est assis sur le trône, il est victorieux? Est-ce que quelque chose peut l'atteindre? Non, rien. Il est dans une victoire totale. Il est ressuscité. Est-ce que la mort pourrait toucher Dieu, le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on pourrait le... Excusez-moi, ça me gêne de dire ça, mais est-ce qu'on pourrait le faire mourir une deuxième fois? C'est impossible. C'est impossible. Rien ne peut l'atteindre. Vous le comprenez? Il est vivant. Et cette vie, il veut la répandre. Il l'a promis. Ce n'est pas moi qui insiste. Mais je voudrais que nous comprenions bien qu'il ne faut pas chercher la bénédiction. Il faut chercher à ce qu'il remplisse toute chose. S'il y a bien une chose que Dieu veut faire, c'est remplir l'Église. Et quels que soient nos manquements, nos défaites, nos défauts, tout ce que vous voudrez, le Seigneur, il est vainqueur. Et nous devrions dire, mais Seigneur, cette richesse, je la veux. Puisqu'on vient de lire que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est la richesse de sa gloire. Vous n'aimeriez pas faire des expériences extraordinaires avec Dieu? Pas des bénédictions, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Alors moi je ne critique pas, parce qu'on peut le faire. Dieu est notre Père, on peut demander sa bénédiction matérielle, oui ou non? Mais ce n'est pas pour ça qu'on va être utile, ce n'est pas pour ça qu'on va ressembler au Seigneur. Il y a des chrétiens, on se demande, c'est-à-dire, vous ne vous êtes jamais posé la question, allez, soyez honnête, mais il va à l'église? Tu crois que c'est un chrétien? Allez, dites-moi la vérité, vous n'avez jamais dit ça à quelqu'un? Tu crois que c'est chrétien? Sérieusement, vous ne l'avez jamais fait ça? Et pourtant ces gens, vous discutez avec eux? Vous êtes presque bouleversés, ils vont vous dire « Alléluia, Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a exaucé. » Mais rien dans leur vie, rien, je dis bien rien, ne fait qu'ils ressemblent à Jésus-Christ. Et nous, nous voulons y ressembler. Nous sommes là ce soir pour le glorifier. Et c'est vrai, comme on l'a chanté, ce petit cœur où Jésus parle justement de ce grain de blé. Il parle de lui, mais par projection, il parle de chacun de nous. Où celui qui sert le Seigneur Jésus-Christ devra mourir à lui-même. Vous avez vu comment il est ressorti de Damas, de Paul? Ça a changé quand même. Ce n'était pas le début du brisement. On voulait le tuer. Peut-être qu'il a pu se dire le soir dans son lit... Aïe, 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 c'est ça être chrétien. On veut me tuer, moi, qui faisais tuer les chrétiens, maintenant c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Il est resté attaché à Dieu et il a reçu cette révélation. Et mes frères et sœurs, nous devions vraiment tout faire pour prendre conscience de notre besoin. Est-ce qu'on le connaît, notre besoin? Est-ce que vous savez, est-ce que je sais ce dont j'ai besoin? Jeudi soir, je prêchais sur cette affaire où ces deux aveugles ont poursuivi Jésus. Je peux vous assurer qu'ils voulaient être avec lui. Pourtant, ils étaient aveugles. Mais ils ont tout fait pour se retrouver au pied du Seigneur. Et ils y sont arrivés. Malgré toute l'opposition, je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'être aveugle et chercher à rejoindre Jésus. Ils l'ont fait. Et bien sûr que ça paraît presque simplé d'entendre Jésus dire « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ah, bien sûr, tout le monde répond « Mais qui retrouve la vue ?» Parce que c'était leur besoin. C'était vraiment ce dont ils avaient besoin, que leurs yeux s'ouvrent. Mais soyons honnêtes, si le Seigneur Jésus vous posait la question lui-même, ce soir, dans votre chambre, d'une manière spirituelle, profonde, et s'il vous disait « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Qu'est-ce que tu répondrais? Vous voyez que de suite, ça indique qu'on n'est peut-être pas capable, alors ne nous traumatisons pas, ne nous sentons pas coupables, ne nous sentons pas enfoncés, sentons-nous interpellés et soyons intelligents en disant, mais Seigneur, mais illumine les yeux de mon cœur, que je sache, moi si je vous disais priez pour moi, pour que je prêche bien, c'est mon besoin, il faut que je prêche bien, est-ce que c'est ça mon besoin? Est-ce que c'est ça mon besoin? Dites-moi la vérité, que je prêche bien. Pourquoi? Pour faire le malin? C'est ça mon besoin? Non. Mais voyez, certains pourraient le croire. Il faut que je prêche bien. Non. Si le Seigneur venait me voir, il ne faudrait pas que je lui dise, Seigneur, fais que je prêche bien. J'aimerais bien prêcher. Non. Je devrais lui dire, Seigneur, je veux te ressembler de plus en plus. Est-ce que ça, c'est une prière qui peut plaire au Seigneur? Voyez, c'est facile de dire, ben ouais, les aveugles, c'est simple comme tout, qu'ils ouvrent les yeux. Mais Seigneur, mon besoin, vous avez vu l'église de Laodicée? L'église de Laodicée, c'est une église qui est vraiment mal. Elle est en train de se perdre. Elle a mis Jésus dehors, elle a des richesses, ça, c'est pas grave, c'est pas les œuvres qui sauvent, mais enfin bon, elle est se contenter de ses œuvres. Et Jésus va être d'une sévérité terrible. Pourtant, il aime cette église. Il leur dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Mais il va leur dire une parole terrible. Qu'est-ce qu'il va leur... Vous rappelez la parole sévère qu'il va leur dire? Que s'ils restent tièdes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les vomir. C'est écrit ou c'est pas écrit? Moi aussi. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui ne... Quand Jésus dit qu'il va vomir, alors je t'explique. Quand Jésus dit « je les vomirai de ma bouche », ça veut dire que le corps de Christ ne peut pas supporter la tiédeur. Comme nous ne pouvons pas supporter certaines choses, nous les vomissons, le Seigneur ne supporte pas certaines choses. Et il les rejette. L'image qu'il utilise, elle est forte, exprès, pour que ça nous choque justement. Parce que c'est vrai que c'est pas tellement agréable. Mais il y a la solution. Et j'aimerais que nous appliquions peut-être à lire cette solution. Il y a toujours une solution. Lorsque Dieu nous reprend d'une manière sévère ou d'une manière douce, qu'importe, il donne toujours la solution. Donc dans l'Apocalypse au chapitre 3, il donne la solution. On l'a déjà lu, mais je suis persuadé que plusieurs ont besoin ce soir de demander à Dieu, mais je vais vivre ces choses. Je vais le faire. C'est l'église de Laodicée, c'est l'église de la fin des temps, c'est l'église qui a mis Jésus dehors. On pourrait se dire, mais c'est pas possible. Le Seigneur, il est dans toutes les églises. Tous les dimanches, on dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le Seigneur, il est au milieu de nous. Mais ça ne l'oblige pas à agir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce qu'il est là qu'il peut manifester sa présence. Il est là et il veut la manifester. Et pour qu'il la manifeste, pour que l'on puisse retrouver cette communion avec lui, ce qui est indiqué à partir du verset 20, il y a 5 conseils. Ce ne sont que des conseils. Nous devons les présenter avec beaucoup de grâce, beaucoup de simplicité, beaucoup de sérieux. Ce sont des conseils. Cette église, elle ne sait pas ce qu'elle doit demander. Mais Dieu sait ce qu'elle doit demander. Vous avez vu au verset 17, tu ne sais pas. Voyez, c'est au verset 17, oui. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bon, ça fait quand même pas mal. Vous êtes d'accord? Ça fait beaucoup quand même, hein? Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ah, c'est terrible cette condition spirituelle. Être nu spirituel, c'est vraiment... C'est une honte. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsémané? Quand on a arrêté Jésus, il y a eu toute une cohue, bohue de choses. On a poursuivi un disciple, on y a attrapé le vêtement. Il est parti comment? Tout nu. Ça ne veut pas dire qu'il était entièrement nu. Et combien de chrétiens, dès qu'il y a une épreuve... Il se retrouve tout nu spirituellement. Et le Seigneur qui sait où on en est, il le sait. Peut-être qu'il pourrait te dire, mais tu ne sais pas quel est ton besoin. Et si on prie, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, montre-moi. Peut-être que vous allez être surpris de voir combien Dieu s'intéresse à cette prière. Parce qu'il y a des prières, Dieu ne les exaucera pas. Vous le savez très bien. Que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une... Vous le savez, voyez. Donc, le Seigneur, il sait, il nous aime. Cette affaire, on le sait, regardez au verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Le Seigneur, il nous aime. C'est pas possible qu'il nous laisse loin de lui, nus, misérables, aveugles, pauvres, perdus, en train de nous perdre, parce qu'on peut perdre le salut. Si on ne pouvait pas perdre le salut, ces textes ne seraient pas là dans la Bible, croyez-moi. Mais on peut perdre le salut. C'est terrible ça, quand il dit ailleurs que personne ne prenne ta couronne. Vous vous rendez compte? Avoir travaillé toute sa vie et se retrouver nu, se retrouver sans rien, se retrouver perdu, éloigné de Dieu, dont le Seigneur, il donne des conseils. Premier conseil, verset 18. « Je te conseille d'acheter... de moi, donc c'est Jésus qui parle, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui veut devenir riche, spirituellement parlant, il n'y a que moi qui lève la main. Mais Dieu voit, hein. Bien sûr, vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Mais je repose la question parce que j'ai l'impression que plusieurs n'ont pas compris. Parce que vous savez, Dieu regarde le cœur. Vous le savez, quand on est assemblé, tu regardes. Il voit si c'est sérieux, je blague pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir riche spirituellement? Est-ce que c'est une bonne question? Dieu le voit. On voit bien que la volonté de Dieu, c'est que nous connaissions ces richesses qui n'ont rien à voir avec des richesses matérielles. Mais Dieu, est-ce qu'il peut bénir matériellement? Parce que quand même, c'est un sujet qui souvent est pénible, mais c'est un beau sujet. Est-ce que Dieu peut bénir matériellement?
Oui.
Mais bien sûr. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. S'il veut vous enrichir matériellement, il vous enrichira. Mais ne cherchez pas ça. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses spirituelles. Le reste, ça vous sera donné, sans que vous le lui demandiez. Oui ou non? Ne vous occupez pas du bien matériel. Bénissez Dieu si vous avez, je le dis en boucle, ah, si vous avez à boire, si vous avez à manger, si ce soir vous rentrez, que vous avez un toit, que vous avez un frigo, de l'eau fraîche, que vous puissiez prendre une douche. Est-ce que c'est des grâces ça? Tout est grâce. Des millions, peut-être 2 milliards de personnes n'ont pas ces bienfaits. Donc, le reste vous sera donné. C'est une loi, c'est un principe du royaume. Ne cherchez pas ces choses. Nous devrions dire, Seigneur, je vais écouter tes conseils. C'est des conseils. Dieu ne vous obligera jamais. Ne demandez pas, Seigneur, force-moi. Ça ne marchera pas. Seigneur, c'est un conseil. On l'appellera conseiller. C'est bien la preuve. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je suis pauvre. Et tu me demandes d'acheter de l'or, mais ça ne tient pas debout. Mais vous avez compris, là, la beauté de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs spirituelles. L'or dans la parole de Dieu est toujours la conformité à la mort de Christ. Écoutez bien. L'or est toujours l'intégrité, comme l'argent est toujours la rédemption. Dès que vous avez de l'or, c'est toujours ce souci d'être conforme à Christ. Toujours demeurer dans la mort de Christ. Toujours de lui ressembler. Et ça demande un effort. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'acheter. Ah, il faut l'acheter. Il faut acheter l'or maintenant. N'importe quoi. N'allez pas dire n'importe quoi demain. Il y a des gens, ils me font dire des choses des fois que je n'ai jamais dites. Il y a une sœur une fois qui m'a dit, voilà, je ne viens plus dans votre église parce que vous avez dit ça de l'estrade. De l'estrade ? Alors c'est quoi ? Eh bien, vous avez dit ça. Eh bien, ça tombe bien, c'est enregistré. Vous verrez que je ne l'ai pas dit. C'était quelques jours, je me rappelais très bien plus. Donc je vous envoie la cassette. Je vous envoie la cassette et vous vérifierez que je ne vous l'ai pas dit. J'ai moi la cassette et quelques jours après, je l'appelle. Je dis, alors vous avez écouté la cassette? Alors elle était toute gênée. Oui, effectivement, vous ne l'avez pas dit, mais je pense que c'est peut-être ce que vous avez voulu dire. Vous voyez un peu comment les gens sont tordus. Tordus, c'est le mot exact. Mais vous voyez un petit peu combien les gens, non mais c'est grave, et c'était une chrétienne. C'est pour vous dire qu'elle n'acceptait pas le message. Il y a des choses, elles sont merveilleuses. Quand Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, c'est l'expérience que nous pouvons tous faire. Être riche. Je veux être riche, je veux avoir beaucoup de paix. Parce qu'heureux ceux qui procurent la paix. Oui ou non? C'est pas beau quand vous venez à l'église de procurer la paix aux autres? Alléluia. C'est ça l'église. J'ai perdu la paix, j'ai passé une mauvaise semaine, je me suis fait avoir, j'ai mal réagi. Seigneur, pardon, mais j'arrive à l'église, je vois des frères qui sont en paix. Oh, ils prient avec moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je retrouve la paix. Mais c'est sûr, si sur une église de 100 personnes, il n'y en a qu'un qui a la paix, ça va être difficile. Hein. Sur une église de 100 personnes, s'il y en a 99 qui ont la paix, ça va être un petit peu plus facile. Seigneur, je veux être riche. Surtout qu'il veut. Je veux vivre. Et Dieu donne la paix. Bien sûr que Dieu donne la paix à ceux qui obéissent. Si je vis dans le péché, est-ce que c'est normal que je perde la paix? Mais oui, c'est normal. Si je vis dans le péché, je perds la paix. Si je désobéis à Dieu, je perds la paix. Dès que j'obéis à Dieu, je retrouve cette paix. Dès que je demande pardon, si je me suis froissé avec quelqu'un, eh bien je retrouve la joie. Oui ou non? Je veux être riche. Alors c'est vrai qu'il y a un prix, acheter, ça paraît contraire à l'évangile, mais pour les gens qui sont simples et qui sont spirituels, ils ont bien compris que l'achat représente un effort à fournir. Pourquoi Dieu demande d'acheter de l'or? Parce qu'on peut se rendre de plus en plus conforme à Dieu, conforme à Christ, conforme à la mort de Christ. Je parlais tout à l'heure à l'introduction du jeûne et prière, de cette vision que Dieu va donner à Zacharie alors que ça va mal, ils n'arrivent pas à faire l'œuvre de Dieu, et Dieu parle à Zacharie. Et il lui dit, voilà, et tu vois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alors il dit, je vois un chandelier tout en or. Vous voyez, il y a besoin de terminer l'œuvre de Dieu. Dieu montre un chandelier. On pourrait dire, mais c'est pas ce dont j'ai besoin de voir, je te le dis. Moi j'ai besoin de voir que les montagnes vont être affaissées, que tu vas t'occuper des problèmes, mais un chandelier. Eh bien oui, ça commence toujours par cette lumière, cette vie de l'esprit, ça commence toujours par le témoignage, l'instrument du témoignage. Le chandelier, c'est toujours l'instrument du témoignage dans la Bible. Et Dieu va montrer un chandelier tout en or. Derrière ce chandelier, il y a deux oliviers qui alimentent ce chandelier, qui indiquent qu'il y a une vie qui alimente ce chandelier. Et nous sommes la lumière. Est-ce que nous sommes ces chandeliers d'or pur? Est-ce que nous voulons acheter cet or? Seigneur, je veux être un vase d'or. Je veux être un vase utile. Je veux travailler à cette affaire. Je veux être riche. Je veux rester le temps qu'il faut dans ta présence pour que mon cœur puisse fondre. Parce que vous savez, le diable, il se charge de nous endurcir le cœur. Et de l'or éprouvé par le feu, c'est n'oublions pas, c'est le maître du ciel qui parle. C'est celui qui connaît notre cœur. Cette église, elle va mal. Dieu s'y intéresse. Je ne sais pas si vous allez, peut-être vous allez très mal, mais Dieu, il vous aime. Et tant que vous êtes sur la terre, n'oubliez pas que tant que vous êtes sur la terre, on a tout le temps l'opportunité de refaire la paix avec Dieu. Tant qu'on est sur la terre, on a toutes les possibilités de retrouver, de revenir, d'être restauré. Regardez Jacob, pendant 20 ans, il a magouillé, il a trompé tout le monde, il a reçu le retour de manivelle. Pendant 20 ans, jusqu'au jour où Dieu a voulu le bénir, non pas matériellement, mais spirituellement. Et Dieu a été obligé de le briser. Et à partir de là, c'est devenu un autre homme, à tel point que quand Dieu, le matin, lui a brisé la hanche, il a dit, tu t'appelleras plus Jacob, le trompeur, tu t'appelleras Israël, le vainqueur avec Dieu. Et il faut du temps, il a lutté avec Dieu toute la nuit, pas contre, avec Dieu. Et moi je me demande bien si le diable ne fait pas tout pour nous empêcher d'avoir cette victoire. Vous vous rendez compte? Acheter de l'or. Qu'est-ce qu'il dit aux vierges folles? Acheter de l'huile. Et mes frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte à quel point il y a une bénédiction. Oui, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui, nous avons tout pleinement en Christ. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons riches, riches de ces choses spirituelles, non pas que nous soyons pauvres et que nous soyons irritant, que nous soyons... Vous connaissez les œuvres de la chair? Vous les connaissez ou vous voulez un petit récapitulatif? Est-ce que vous savez ce que c'est? Nous en avons suffisamment souffert, je pense, pour pas avoir besoin de les rappeler. Mais les œuvres de la chair sont évidentes, les rivalités, les jalousies dans une église. Est-ce que ça serait normal qu'il y ait des jalousies? Quand il y a de la jalousie, quand il y a de l'irritation, quand il y a des disputes, c'est la preuve que l'homme n'a pas été brisé. C'est la preuve. Et que c'est la chair qui prédomine. Lorsque l'homme est brisé, lorsque l'homme accepte ce brisement, c'est pour ça que j'ai parlé de Saul de Tarse qui descend dans sa corbeille de nuit pour ne pas se faire tuer à la porte. Il est brisé, c'est un grand homme. Tout d'un coup, il devient pauvre serviteur. Quand il va arriver dans l'église de Jérusalem, on ne va pas le croire. Regardez la suite. On va dire, mais c'est pas possible, c'est un espion. Enfin, c'est pas dit comme ça. Mais... Il est brisé. Il était en train d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Il était en train de devenir riche. Il acceptait le brisement. Et le Seigneur l'a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Alors Seigneur, je veux devenir riche. Je veux mettre en pratique les conseils. Les gens, ils n'écoutent pas. Les gens, ils s'imaginent. Les gens sont tellement aveuglés. Ils s'imaginent que la prédication, ça va répondre aux besoins. Ça va mener les gens au but. La prédication, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous amener à obéir. Est-ce que vous comprenez? La prédication n'est pas un but en soi. Dieu utilise la prédication pour nous convaincre. Dieu utilise la prédication pour nous parler, pour nous éclairer, pour nous communiquer certaines choses. Mais la prédication n'est pas un but. Elle nous amène à un but. Et ce but, dit voilà, je vais passer du temps. Combien l'or ils font à quelle température? Est-ce que quelqu'un le sait? Moi, je l'ai marqué dans ma Bible. Alors, 1064 degrés. 1064. Vous voyez? Le cuivre, 1035, etc. Le zinc, 410. Le plomb, 327. J'ai fait esprit, vous voyez, de comparer par imbiber le plomb, parce que l'or, il faut davantage de temps. Est-ce que nous voulons être des vases de zinc, de plomb ou d'or? Des chandeliers tout en... C'est là que la vie de l'esprit peut se communiquer, ces oliviers qui alimentent le chandelier sont l'image du Saint-Esprit, de la parole qui nourrit un homme et qui fait que l'Esprit de Dieu peut se manifester. C'est pour ça que tout à l'heure on a pris ce texte dans l'Apocalypse, juste avant, où Jésus dit « Je marche au milieu des chandeliers d'or ». Et nous devrions tout faire pour dire « Seigneur, oui, je prendrai le temps qu'il faut ». En plus, à l'époque, ils n'avaient pas les chalumeaux spécialisés pour faire fondre le... Il fallait des soufflets, etc. Vous savez comment c'était, peut-être. Je vous assure, il fallait des heures pour amener le feu à une température aussi élevée. Il fallait des heures. Donc, c'est facile à comprendre pour les gens de l'époque. De l'or éprouvé par le feu. Mais Seigneur, je vais te donner le temps qu'il faut que je te donne. Est-ce que c'est à moi de vous dire, bon, Jonathan, tu passes, ça va spirituellement? Oui, bon, tu passes une heure devant Dieu. Toi, Nicolas, ça va moins bien? Bon, tu passes un peu plus. Est-ce que ça marche comme ça? Mais non, c'est une question de soif. J'ai besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. J'aime la présence du Seigneur. J'ai besoin d'être seul avec lui. Si le culte, c'est une corvée, il faut lire. Je vous rappelais cette femme qui me disait, je lis la Bible parce que j'ai peur que vous me le demandiez le dimanche si j'ai lu la Bible dans la semaine. J'ai dit, écoutez, non, lisez plus, c'est pas la peine. C'est ridicule. On lit pas la Bible par crainte de quelque chose. On lit la Bible parce que la Bible est le conseil de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la sévérité de Dieu, c'est l'exigence de Dieu. Mais vous en voudriez-vous d'un Dieu qui ne soit pas exigeant? Soyons honnêtes, vous voudriez-vous d'un Dieu qui soit léger, super léger? Mais c'est impossible, c'est impossible, il ne serait pas Dieu bien sûr. Mais mes frères et sœurs, quand le Seigneur dit voilà, je te donne un conseil, prends du temps. Achète, tu es pauvre, tu es misérable. C'est pas Dieu avait mépris, vous savez, le Seigneur. Je pense qu'il devait y avoir beaucoup de tristesse quand il a dit ces choses. Mais tu sais, tu peux devenir riche. Et je crois que les gens de dehors, et même d'Adam, parce qu'il n'y a pas que les perdus qui en ont besoin, je crois que même les gens du dedans, ils ont besoin de découvrir la richesse de Christ. Les richesses incompréhensibles, incommensurables. Moi, quand je vois tout ce qui est écrit, mais je vais le faire, je vais prendre une feuille et je vais tout mettre, ce qu'il y a en Christ. Il doit y avoir 200 choses à peu près, de manière précise. Les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oui, Dieu s'est révélé à Saul de Tarse, Dieu s'est révélé à Samuel, Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu s'est révélé à David. Et pourquoi il ne se révélerait pas à toi? Est-ce que Dieu fait exception de quelqu'un? Ou est-ce que Dieu veut se révéler? Oui, Dieu veut se révéler. Alors Seigneur, on va prendre le problème par le bon bout. Et je vais m'appliquer. Je veux être riche. Je veux être riche. Alléluia. Ça dépend que de vous. Toute cette affaire de mort à soi-même, de renoncement, quelqu'un me disait dernièrement, mais c'est comment ça se passe? C'est Dieu qui le fait ou c'est l'homme qui le fait? Eh bien, c'est les deux. Dieu, il agit, il nous parle, il nous montre, il nous convainc, il nous travaille, oui ou non? Le Seigneur, il agit. Et nous, on accepte, on refuse. Ce conseil que je vous donne, moi je sais qu'il est, il est spirituel, il ne peut pas ne pas être spirituel. Il n'est pas spirituel parce que je vous le dis, il est spirituel parce que Jésus donne ce conseil, en plus à la dernière église qui représente l'église de la fin des temps. Donc je peux devenir riche, je vais travailler ces choses, moi j'ai besoin d'être une source de bénédiction pour les autres. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire, mais ouais, c'est ce que je veux. J'en ai marre d'être un fardeau, d'être toujours me plaindre, de gémir, de râler, de murmurer, de fatiguer ma famille, mes enfants. Moi, je voudrais être une source de bénédiction. Il y a quelqu'un qui est dans ce cas? Moi, oui. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. On en restera là ce soir. Et si nous prenions le temps, je le dis, hein, mais rien que de prendre Éphésiens, je le répète, et je vais voir tout ce que je suis, tout ce que je peux obtenir en lui, caché en lui, dans sa présence, et que personne n'ait la malhonnêteté de me dire, Monsieur Gault, j'ai pas le temps. Si vous dites que vous n'avez pas le temps, soyez honnête, dites, tu vois Seigneur, je dis ça, mais c'est pas vrai, je ne veux pas. Seigneur, donne-moi la soif de ta parole. Vous croyez que Dieu peut exaucer cette prière? Quelqu'un qui dit, mais je ne fais pas mon culte, je prie 3 minutes, et puis vite, 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 j'ai autre chose à faire. Mais ça ne va pas. Mais bien, reconnaissez-le. Reconnaissez-le, ne vous traumatisez pas. Seigneur, donne-moi la soif. Est-ce que c'est une prière que Dieu peut exaucer? Seigneur, donne-moi la soif de ta présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Vous savez, mes frères et sœurs, les aveugles de l'évangile de Matthieu, ils connaissaient leurs besoins. C'est pour ça qu'ils ont pu répondre aussi vite. Mon frère, ma sœur, tenons-nous à ses pieds. Nous deviendrions riches. Et il te montrera, il me montrera. Mais quel est mon besoin? Quelles sont ces richesses, Seigneur, que tu veux me donner? Vous savez que c'est vrai. Et je le répète, vous pouvez être pauvre, misérable, spirituellement, aveugle, nu. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que Dieu peut tout changer. Alléluia. Vous vous rendez compte? Ce soir, quelqu'un dit, mais c'est vrai, je suis pauvre. J'arrive même pas à faire du bien à ma famille. Même pas à faire du bien à ma femme, à lui faire du bien. Mon Dieu, que je suis pauvre. Eh bien, ne vous désolez pas. Prenons le problème par le bon bout et disons, Seigneur, je vais devenir riche. Je vais acheter de l'or. C'est vrai que l'or, c'est cher. Ça indique que le prix, il est élevé. Dieu ne dit pas, vous allez acheter de la terre. La terre, il n'y a pas besoin de creuser. Hop,
Vous prenez une pelle et vous la mettez à la remorque. Il y a pas de, et c'est pas cher. L'or, il faut creuser. Notre Père, nous te bénissons de nous avoir laissé ta parole. Nous en déduisons que quel que soit l'état spirituel dans lequel nous sommes, tu veux nous enrichir. Merci Seigneur. Et que les réserves du ciel sont inépuisables. Nous le savons parce que c'est ta croix qui nous l'a rappelé. Oui, tu as été brisé. L'apôtre Paul a été brisé. Tu brises les hommes pour en faire des instruments de bénédiction, pour manifester ta gloire. Nous te remercions de nous avoir dit que si nous te cherchions, toi et ta justice, toutes ces choses que nous avons besoin nous seraient données. Merci de nous l'avoir rappelé. Mais au-delà de ces choses matérielles dont tu nous combles, nous savons également, Seigneur Jésus, que tu es prêt à nous accorder cette richesse insondable de Christ. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que tout ce que nous vivrons dans l'intimité de nos foyers, ce que nous vivrons dans l'Église, que tout, Seigneur, contribue à ce que cette richesse soit reçue et manifestée sur les autres. Oui, Seigneur, nous voulons avoir en chacun de nous les pensées qui étaient dans ton cœur, afin, nous aussi un jour, de régner avec toi dans la gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.